On va lire ce soir dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Verset premier. Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On va lire encore une fois un autre verset plus loin, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Verset 51. Corinthiens 15:51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » On va lire encore dans 1 Thessaloniciens 4, pour le retour du Seigneur Jésus. Au verset 13, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lisons encore dans l'Évangile selon Marc, chapitre 13, Marc 13. On va lire quelques versets. À partir du verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison et remet l'autorité à ses serviteurs. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, au chant du coq, ou au matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. C'est un dernier passage dans Ésaïe. Au chapitre 33. Ésaïe 33. On va lire le verset 22 seulement. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. J'aimerais méditer un peu ce soir, comme vous avez pu le deviner par la lecture de la parole de Dieu, un peu de du retour du Seigneur Jésus. C'est un sujet très important et un sujet de grande actualité, parce que on approche rapidement du jour, du moment où le Seigneur Jésus va venir du ciel pour chercher les siens. Et c'est important d'être prêt. Si on n'est pas sauvé, on est mieux d'avoir les oreilles ouvertes pour entendre ce que Dieu veut nous dire, d'écouter ce que Dieu à nous annoncer. Et si on est sauvé, ben, nous aussi, on doit être prêt. Parce que, on peut être endormi aussi. Ou on peut être, pas prêt vraiment. Prêt, oui, pour être enlevé. Mais pas vraiment dans une condition où on entrera avec joie dans le royaume. Lorsqu'on rencontrera le Seigneur. On peut dire que ce qui est vraiment remarquable de la Bible, c'est que c'est un livre prophétique. Et un livre qui nous annonce ce qui va arriver d'avant. C'est ce qui marque la Bible, c'est ce qui la distingue, devrais-je dire, des autres livres religieux. Dans d'autres religions, qu'on prenne les religions hindoues, qu'on prenne le Coran, c'est pas des livres prophétiques comme la Bible. La Bible a une parfaite connaissance du passé, du présent et de l'avenir aussi. C'est remarquable. La Bible, elle dit d'avance ce qui va arriver et beaucoup de ces prophéties sont devenues des faits historiques. Alors on voit bien déjà là, on a des bonnes raisons de croire la Bible. Le chrétien, il croit pas à l'aveuglette dans la parole de Dieu. Elle est vraie, on a des raisons de la croire. Quand on regarde toutes les prophéties qui ont été accomplies à propos de la venue du Seigneur Jésus, j'en ai remarqué un bon nombre. Le Seigneur Jésus était annoncé longtemps, longtemps d'avance. Vous connaissez la première prophétie qui annonçait un sauveur, c'est au lendemain de la chute, quand Dieu avait dit « La postérité ou la postérité de la femme brisera la tête du serpent. » C'est la ce qu'on appelle le protévangile, la première mention d'un sauveur qui devait venir. Et un peu plus tard, le chapitre 18 du livre du Deutéronome, Moïse dit, « Dieu vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Puis, à travers l'Ancien Testament, par la voix des prophètes, en particulier Ésaïe, la prophétie devient de plus en plus précise, claire, de l'annonce d'un sauveur, le Messie, le Christ. Effectivement, les prophéties se sont accomplies. Une quantité de prophéties a été accomplie par la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Les prophéties qui se sont accomplies littéralement, ça veut dire à la lettre, telle que c'était marqué. Il devait naître à Bethléem, il devait naître d'une vierge, il devait être appelé Nazaréen, il devait être trahi par un ami, abandonné de ses disciples, abreuvé de vinaigre sur la croix, il devait souffrir la crucifixion, puisque c'était marqué, maudit quiconque est pendu au bois, il devait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devait, aucun de ses os devait être brisé, mais il devait être transpercé, il devait avoir un tombeau avec le riche, il devait ressusciter. Toutes des choses qui étaient annoncées, et des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de prophéties, se sont accomplies à la lettre. Et le même Sauveur, le Christ, il a dit, prononcé ces paroles que nous avons lues pour buter ce soir, « Je m'en vais et je reviendrai. Je reviendrai. » Et on sait que par la parole de Dieu, il doit revenir non plus comme un enfant, non plus comme un sauveur humble, débonnaire, mais il doit venir comme le grand vainqueur, dans une manière bien différente qu'il est venu la première fois. La première fois, il est venu dans l'humilité, il doit revenir dans toute sa majesté. Il est venu une première fois pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il doit venir pour juger le monde et établir son royaume sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, il y a pour ainsi dire deux lignes de prophétie. Certaines prophéties qui aboutissent à la croix du calvaire, à Bethléem et finalement à la croix. Mais il y a d'autres prophéties dans l'Ancien Testament qui aboutissent au mont des Oliviers et au trône, à Jérusalem, là où il doit régner. Et on sait que l'Ancien Testament, les croyants, ils ne pouvaient pas discerner les deux. Ils ne savaient pas que le Seigneur devait venir deux fois. Mais nous, on comprend aujourd'hui qu'il est venu une première fois et qu'il doit revenir une deuxième fois. Mais quand on lit l'Ancien Testament, on pensait qu'on ne pouvait pas voir que c'était deux fois. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a deux lignes de prophétie. Il y a certaines promesses de son retour qui se rapportent à l'enlèvement qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, et puis d'autres qui nous parlent aussi de son règne, quand il va venir régner. On a de la peine à discerner les deux. Dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, bien, il parle surtout de quand il va revenir pour établir son règne. Dans l'évangile de Jean, entre autres, dans le chapitre 14, où on a lu, qui nous parle qu'il va revenir pour chercher les siens. Et à la lumière de l'ensemble des Écritures, on pourrait lire beaucoup d'autres textes, on voit qu'il n'y a pas deux venues, mais il y a deux phases. Il y a en un premier temps, il vient pour chercher l'Église, les croyants, les morts en Christ, c'est-à-dire les morts dans la foi, vont ressusciter avec des corps glorieux, complètement différents, plus sujets aux lois de la nature, et puis les vivants vont être changés, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, 51. C'est une vérité qui n'était pas connue avant, parce que dans la Bible, quand il dit un mystère dans la Bible, c'est pas tout à fait le même sens que dans le dictionnaire. Ça veut dire quelque chose qui est inconnu avant, qui est inaccessible à la raison humaine, mais que Dieu fait connaître. C'est ce qu'il dit, je vous dis un mystère. Souvent, dans la Bible, on voit qu'un mystère, c'est quelque chose que Dieu révèle. C'est pas tout à fait le sens de mystérieux, comme dans le langage courant. Ce mystère, c'est que, parce que c'était pas connu avant, donc, il vient d'abord dans les airs, les croyants vont partir à sa rencontre, et puis, dans le ciel, il va y avoir le tribunal de Christ, les noces de l'agneau, dont il nous parle dans la parole, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 5, le tribunal de Christ, entre autres, il y a d'autres passages, et puis dans l'Apocalypse, au chapitre 20e, il parle des noces de l'agneau, le festin des noces de l'agneau, et puis après, le Seigneur Jésus revient avec les croyants, les siens, il vient pour juger les nations et établir son royaume. Et ça va être un jour merveilleux, qu'on peut pas vraiment se représenter, parce que ce sera tellement grand. Puis là, on va avoir un bon gouvernement. Dans ce temps-là, on va avoir un bon gouvernement. Savez-vous pourquoi? Savez pourquoi on aura un bon gouvernement? L'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Dans un gouvernement, dans nos pays, il y a trois niveaux d'autorité. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, au Québec, c'est l'Assemblée nationale. C'est eux qui font les lois. C'est l'Assemblée nationale qui fait les lois, le pouvoir législatif, ou le Parlement à Ottawa, si on veut parler du Canada. Le pouvoir exécutif, c'est le Conseil des ministres, qui sont responsables de faire exécuter les lois. Le pouvoir judiciaire, c'est nos tribunaux. Mais dans le règne que nous attendons, quand on va venir avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on lit? L'Éternel est notre juge, donc il a le pouvoir judiciaire, il les met pas dans le même ordre, mais il commence par le juge. L'Éternel est notre législateur, c'est lui qui va faire les lois. L'Éternel est notre roi, c'est lui qui fera exécuter les lois. Voyez-vous, il va avoir les trois niveaux d'autorité, vont être entre les mains du Seigneur Jésus lui-même. Législatif, c'est lui qui fera la loi. Il est le législateur, il est le roi qui va faire exécuter ses lois, il va être le juge qui va juger ceux qui voudront pas obéir à la loi. Donc, là, on va être bien. C'est ce jour-là qu'on attend. Son nom est pas sur les listes électorales encore aujourd'hui. Parce que la plupart du monde peut dire pareil comme dans la parabole que le Seigneur avait racontée, la parabole des vignerons, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ça, c'est le cri de l'homme naturel. Ceux qui ne sont pas sauvés, dans le fond, c'est ce qu'ils disent. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est ce qu'ils disent. S'ils ne le disent pas de bouche, c'est ce qu'ils expriment puisqu'ils ne veulent pas l'accepter. Ceux qui ne veulent pas l'accepter, dans le fond, c'est comme s'ils disaient, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Ils ne veulent pas reconnaître son autorité. Quand on est chrétien, malgré qu'on est encore des pécheurs, on sait qu'on a encore des faiblesses, on le reconnaît aussi, mais on reconnaît déjà son autorité. On est déjà dans son royaume, parce qu'on reconnaît son autorité sur notre vie. On veut être soumis à son autorité. Sa loi est à ce qu'il dit, sa parole. Donc, voilà le règne qu'on atteint. Maintenant, on peut poser la question, comment est-ce que on peut savoir que le Seigneur Jésus va revenir bientôt? C'est une question qui nous est posée, ça. Une de mes filles me l'a posée cette semaine, elle dit, oh, je veux parler de ça à l'école du dimanche. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on sait que le Seigneur Jésus va revenir bientôt? Mais on peut dire qu'il y a quatre catégories de signes. Il y a le signe moral. Vous l'avez vu, on l'a lu dans l'évangile de Marc. Personne ne peut dire de date, de fixer de date. Si je disais, je suis sûr que le Seigneur Jésus va revenir cette année, je dirais quelque chose que la Bible dit pas. Parce qu'on peut pas dire va revenir cette année. Ce qu'on doit dire, ce qu'on doit croire, c'est qu'il peut revenir aujourd'hui. Demain, ce sera un autre aujourd'hui. Comprenez? Il peut revenir tout de suite, avant la fin de la réunion. Le Seigneur Jésus peut revenir. Et même, il va revenir au moment où on s'y attend pas. Le premier signe, c'est le signe moral. S'il nous a pas donné des dates, s'il nous demande pas de faire des calculs, il nous donne des signes qui doivent précéder son avènement en gloire. Et l'enlèvement est 7 ans avant le retour du Seigneur Jésus pour régner. C'est clair dans la parole, d'après Daniel. Bien, si on voit déjà les signes qui marquent l'établissement, la veille de l'établissement de son règne, on peut être sûr qu'il doit être bientôt là. Le premier signe, le signe moral. La Bible est claire que à la fin des temps, il y aura une recrudescence d'activité satanique. La même chose que quand le Seigneur Jésus était sur la terre. C'est évident que dans les évangiles, ça vous a peut-être frappé, oh, je veux boire un petit peu d'eau parce que le verre est tellement plein que... J'ai peur qu'il déborde si je fais bouger la tribune. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il y avait une activité extraordinaire de démons. On se rappelle comment le Seigneur Jésus rencontrait toutes sortes de possédés. Il y avait beaucoup d'activités démoniaques. Parce que le Seigneur Jésus était sur la terre et toute action de Dieu amène une réaction de Satan. Et c'est clair pour la fin des temps aussi. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits démoniaques, des doctrines de démons qui vont être prononcées. Maintenant, beaucoup de fausses religions sont en fait des activités de démons. Mais il y a aujourd'hui aussi des églises de Satan, il y a des cultes, des messes noires, des choses terribles qu'on est mieux de pas connaître même. On vit dans un jour où, ouvertement, Satan est adoré et actif, comme jamais auparavant dans l'histoire du monde. Quelque chose de typique. Et évidemment, le but de Satan, c'est toujours de détruire. Même les suicides, ça vient du diable. Et on sait qu'ici même au Québec, on a un record de suicides. Et c'est le but de Satan de détruire, de tuer, de faire du mal. Quoi qu'il peut se présenter aussi comme un ange de lumière. Sans semblant qu'il y a des nouvelles révélations, comme certaines religions. Alors, une activité plus qu'ordinaire de démons. Une recrudescence aussi de toutes sortes d'apparitions de ce genre-là. Il y a un autre signe moral. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. C'est un grand mot, mais le mot apostasie, ça veut dire abandon. C'est abandonner la foi à laquelle on a professé adhérer. Ce n'est pas un vrai chrétien, ça, qui apostasie. C'est les gens qu'on côtoie qui professaient une religion avec quand même pas mal de choses justes et vraies, qui croyaient en Dieu, croyaient au diable, croyaient à l'enfer, croyaient au ciel, croyaient que Jésus était le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Tout ça, ils l'ont renvoyé, si on peut dire. Ont rejeté ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, mais ne croient plus en diable, plus en Dieu ni en diable. Je devrais dire dans le diable et dans Dieu, parce qu'ils commencent par plus croire au diable, puis ils finissent par plus croire en Dieu. Parce que ne plus croire au diable et à l'enfer, c'est le début pour plus croire en Dieu, ça. Et aujourd'hui, on est vraiment en pleine apostasie. Le monde religieux autour de nous à abandonner la foi, ça veut dire la croyance plutôt, ou les choses auxquelles ils croyaient qui étaient justes. Le peu de juste auquel ils professaient adhérer, ils l'ont abandonné pour croire toutes sortes de doctrines diaboliques ou humaines. On voit ça autour de nous. C'est triste, ça. L'abandon de la foi. Et évidemment, l'affaissement des valeurs morales. Beaucoup de choses qui étaient des valeurs, on s'attendait même que des hommes politiques aient une bonne conduite. Aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Il y a des hommes qui ont des positions assez élevées dans le gouvernement. Peut-être vous n'êtes pas très au courant, mais il y a un mouvement dans le monde, surtout parmi les églises protestantes, mais aussi dans l'église catholique, où on veut réunir en une seule grande organisation toutes les religions. Croyez ce que vous voulez, vivez comme vous voulez, et soyons unis dans une grande religion. Et on sait que même l'Église catholique a invité déjà, assise en Italie, les chefs de toutes sortes de religions, même des animistes. Les animistes africains, ils adorent la nature, les éléments, tout ça, pour prier avec eux. Et les bouddhistes, les musulmans, les shintoïstes, les hindous, toutes les religions ensemble pour former une vaste organisation. Et on est unis, les seuls contre lesquels ces gens-là manifestent, c'est les évangéliques. Parce que les chrétiens évangéliques ne peuvent pas être là-dedans. Mais il y a même des églises où il y a des vrais chrétiens, certaines églises de mélange, qui font partie du conseil œcuménique des églises. Et ça, c'est une salade terrible, que la Bible appelle la grande prostituée. Et on la voit aujourd'hui autour de nous. C'est évident qu'elle se forme de plus en plus, cette grande prostituée. La Bible appelle la prostituée dans un sens spirituel, parce qu'elle est un mélange de toutes sortes de idées sur Dieu et toutes sortes de choses, une espèce de melting pot, si vous me permettez l'expression, quelque chose de terrible. Et au lieu, elle est dans l'Apocalypse, en contraste avec la vraie Église. La vraie Église, l'Église fidèle, c'est celle qui a son cœur avec son céleste époux, tandis que la grande prostituée, c'est celle qui cherche les honneurs et l'approbation du monde. C'est pour ça qu'elle est appelée prostituée dans un sens spirituel, parce qu'elle s'est donnée à un autre qu'à celui auquel elle aurait dû donner son amour, la grande prostituée. Alors ça, c'est le signe moral, c'est clair. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui visibles dans le monde, et de plus en plus même, elles manifestent l'état du monde dans lequel nous vivons. Il y a le signe social aussi, qui est évidemment assez proche du signe moral. Tout ce qui est de Dieu est en train de disparaître. Que ce soit le mariage, on dit à quoi ça sert de se marier aujourd'hui? La meilleure manière d'éliminer le divorce, ben, c'est de plus se marier. Alors, les jeunes vivent ensemble non mariés, et on sait que c'est très courant dans le monde. On voit la famille, qui est une cellule de base de la société. Les familles se disloquent. Quelqu'un a dit qu'il y a de plus en plus de parents et de moins en moins Il y a de moins en moins d'enfants et de plus en plus de parents. De moins en moins d'enfants, parce qu'il n'y a presque plus d'enfants. Le Québec, qui avait le taux de natalité le plus élevé du Canada, est rendu au plus bas par Terre-Neuve. De moins en moins d'enfants, mais de plus en plus de parents. On a connu des enfants, ben, leurs parents se séparent, et puis un des deux des enfants, bon, ben, ils sont d'un bord de l'autre, puis après ça, bon, ben, l'autre se sépare, ben, ils sont avec un troisième, puis ils savent plus que c'est leurs parents. De moins en moins d'enfants, puis de plus en plus de parents. C'est un désastre, parce que toute société laisse sa famille se désintégrer, elle s'en va à la perte, à sa ruine. Alors, on peut dire dans le signe social, on voit que ce qui a été institué par Dieu, le mariage, c'est pas une institution chrétienne, le mariage. C'est une institution sociale. Avant le christianisme, au début de l'histoire humaine, mais c'est pas un sacrement, mais c'est une institution sacrée, qu'on peut pas toucher sans être contre Dieu. Et on s'en va vers l'anarchie. Et la Bible est claire. On s'en va là. Et c'est évident, plus personne obéit à n'importe qui. Quand il y a eu la révolte en mai 68 à Paris, les étudiants avaient marqué partout contre les murs, interdit d'interdire. Nous, il n'y a plus rien de défendu de défendre. Tout est permis. C'est pas permis de défendre. On peut faire n'importe quoi. Et on est dans un temps comme ça. Plus personne n'est obéi, tout le monde veut faire comme il veut, et on voit dans beaucoup de pays aussi, c'est l'anarchie, la violence, combien de gens qui souffrent. Bien, on est dans un monde d'anarchie, et ça prépare le chemin pour l'Antichrist, parce que l'Antichrist, c'est évidemment un homme sans foi ni loi, qui sera à lui-même sa propre loi. On s'en va là. Même un des fondateurs de la communauté économique européenne a dit, donnez-nous pas des comités, donnez-nous un homme capable de prendre en main le monde. On s'en va là. Et dans la prophétie biblique, il parle beaucoup du Moyen-Orient aussi. Il y a le signe national, c'est le troisième.
le signe moral, le signe social, mais il y a le signe national, Israël. La Bible est claire, à fur et à mesure qu'on approche de la fin, le centre du monde se déplace au Moyen-Orient. Les troubles au Liban, en Palestine, en Israël, tout ça là, ça marque, c'est typique de la fin de notre époque. Dans la prophétie biblique, il n'est pas question des États-Unis ni du Canada, vraiment. Parce qu'ils dépendent de l'Europe, dans un sens, c'est des pays qui ont été colonisés, excusez l'expression, mais c'est ça, c'est développé par les Européens. Et il n'y en est pas question. Mais on peut voir déjà que les États-Unis, qui ont eu le standard de vie le plus élevé de l'histoire de l'humanité, ils sont en train de perdre de l'importance au profit du Moyen-Orient et même de l'Europe. Ça, c'est sûr que c'est l'accomplissement de la prophétie. Et on peut s'attendre que même le niveau de vie va baisser en Amérique du Nord. Notre niveau de vie va baisser parce que l'importance vient de plus en plus vers les pays du Moyen-Orient. Le signe national, Israël, retourné dans son pays. La Bible est claire, on n'a pas lu les textes, mais on pourrait montrer bien des passages. Le Seigneur Jésus avait dit, quand vous verrez le figuier, ça parle d'Israël. La Bible, elle compare Israël, quant au passé, une vigne. Israël, quant au présent, un olivier. Israël, quant au futur, un figuier. Une vigne quant au passé, un olivier quant au présent, et le figuier quant à l'avenir. Quand vous verrez le figuier, et les autres, et tous les autres arbres, ça nous parle du nationalisme. Les arbres, ça parle des pays. Tous les autres arbres. Il n'y a jamais eu depuis très longtemps autant de nationalisme à travers le monde comme il y en a aujourd'hui. Combien de pays qui sont devenus indépendants? Combien on entend parler de minorités qui se révoltent? Puis quand on voit la Yougoslavie qui s'est disloquée pour former différents pays, beaucoup de pays, la Tchécoslovaquie, veulent se séparer, les Tchèques, puis les Croates, les Slovaques plutôt, beaucoup de pays, il y a partout, même en Suisse, il y a un certain canton qui est comme une sorte de province, qui a voulu se séparer d'une autre, partout il y a des problèmes de ce genre-là. Le nationalisme est aussi une marque de la fin des temps. Évidemment, Israël, qui doit redevenir un pays, j'ai lu quelque part qui dit que si le Seigneur vient pas, dans 10 ans, tous les Juifs seront retournés en Palestine. Maintenant, en Israël, je suis pas prophète, je sais pas si c'est vrai, pourquoi ils disent ça, mais c'est un fait que Israël est redevenu un pays et Jérusalem est reconnue comme la capitale. C'est aussi typique, ça. Mais il y a aussi le signe chronologique. C'est-à-dire, du temps. On a lu dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, le Seigneur Jésus avait dit, Marc 13, au verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq, ou au matin. » Les Romains, ils divisaient la nuit en 4 veilles. Ça veut dire quand les soldats se changeaient la garde. Si vous venez à Québec, vous voulez voir le changement de la garde, vous pouvez aller à la citadelle, il y a le changement de la garde, la même chose qu'au palais de Buckingham en Angleterre, avec la mascotte du chèvre. C'est intéressant de voir ça. Bien, la garde se changeait 4 fois. Il y avait 4 gardes. La veille, le soir, de 6h à 9h. La deuxième veille, au milieu de la nuit, de 9h le soir à minuit. La troisième veille, depuis minuit jusqu'au matin au chant du coq, et puis depuis le chant du coq jusqu'à 6 heures le matin. Le chant du coq, c'est 3 heures jusqu'à 6 heures. Et le Seigneur Jésus, il n'est pas venu le soir, au soir de la vie des apôtres, quand il y avait encore ceux qui ont connu l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre aussi, l'apôtre Paul. Il n'est pas venu dans ce temps-là. Les chrétiens devaient l'attendre, les Thessaloniciens s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour attendre le Seigneur Jésus, mais ils ont attendu, mais il n'est pas venu le soir, à la première veille de la nuit. Il n'est pas venu dans ce temps-là. Et les chrétiens devaient être des lumières en attendant, mais malheureusement, depuis l'époque de l'empereur Constantin, et la vérité du retour du Seigneur Jésus a été perdue. Elle était toujours là, on l'a lu ce soir. 1 Corinthiens 15, 51, les versets qui suivent, 1 Thessaloniciens 4, tout chrétien devrait pouvoir les trouver dans sa Bible. Mais ils ont attendu. Le Seigneur voulait qu'on l'attende pendant toute la nuit de son absence. Et lui, il savait qu'il reviendrait pas tout de suite. Il voulait que les chrétiens l'attendent. Mais malheureusement, à un moment donné, quand Constantin a cette profession de se convertir, ils ont perdu de vue cette vérité-là. Les chrétiens ont été persécutés énormément. Et là, je peux pas être trop long, mais quelque chose de terrible. Les premiers chrétiens, vous savez, ils ont été persécutés. C'est incroyable. Ils étaient brûlés sur des bûchers pour éclairer le spectacle pendant que les autres chrétiens étaient donnés en pâture à des bêtes féroces affamées. C'était quelque chose de se dire chrétien à ce moment-là. Et puis, subitement, l'empereur Constantin s'est converti et puis il a déclaré le christianisme religion de l'Empire romain. Les chrétiens ont dit, on est dans le règne, on est les favoris du régime. Ils ont perdu de vue la vérité du retour du Seigneur Jésus, en l'an, à peu près au 4e siècle de notre ère. Le Seigneur n'est pas venu le soir. Minuit, ça nous parle du Moyen-Âge, le milieu de la nuit, le Moyen-Âge. C'est assez drôle que, mais c'est assez curieux, devrais-je dire, que le Seigneur, dans la parole, nous parle du millénium. Et Satan aussi a un millénium, 1000 ans. Le Moyen-Âge, qu'on appelle l'âge sombre, il a duré 1000 ans aussi. À peu près 1000 ans, depuis le 5e jusqu'au 15e siècle, où il y a eu énormément d'ignorants. Il n'y avait plus de Bible, les Bibles étaient seulement dans les couvents. Il y avait une ignorance énorme, extraordinaire. C'était une période sombre dans l'histoire de l'humanité. Mais le Moyen-Âge n'a pas été le temps où le Seigneur est venu, le milieu de la nuit. Il n'est pas venu non plus dans ce temps-là. Depuis donc le 5e jusqu'au 15e siècle. Au chant du coq, c'était depuis vers 3 heures le matin jusqu'à 6 heures. Bien, il y a eu un grand réveil, la Réformation, au 16e siècle, où des milliers de personnes ont été converties. Dieu s'est servi d'hommes extraordinairement capables, comme Martin Luther, Jean Calvin, John Knox, Jean Hus et Jean, Guillaume Farel, et d'autres, des réformateurs, des hommes très instruits, très très instruits, des gamins de 10 ans, ça parlait le grec, l'hébreu, le latin, en plus d'une ou deux autres langues, quelque chose de vraiment extraordinaire, des géants intellectuels. Dieu s'est servi de ces hommes-là, et puis ils ont d'abord connu pour eux-mêmes que le salut était obtenu par la foi. Et non par des indulgences, non par des œuvres. Et ils ont prêché l'évangile avec puissance. et il y a des pays entiers qui ont abandonné la religion catholique romaine. Des pays entiers. Et Dieu a permis, dans sa souveraineté, qu'au même moment, on découvre l'imprimerie. Et un des premiers livres à être imprimé, ça a été la Bible. Mélenchon, c'était avec Luther, il a traduit la Bible en allemand, puis Olivetan, qui est un cousin de Calvin, a traduit la Bible en français, en vieux français, et puis la Bible s'est répandue partout. Si ça n'avait pas été de la découverte de l'imprimerie, ça aurait été une petite division dans l'Église catholique, de rien, mais avec ça, ça a été un schisme à la grandeur du monde. L'évangile a été répandu, des milliers de personnes ont été converties, et même dans certains pays, ceux qui n'étaient pas convertis étaient convaincus intellectuellement que c'était la vérité. Dans des villes comme Genève, en Suisse, il n'y avait plus un catholique dans la ville, plus un! On peut prévoir ça à Montréal. Les gens étaient convertis, ils ont instauré, évidemment, une morale très stricte aussi. L'évangile a été prêché avec puissance. Mais, pas longtemps plus tard, évidemment, il y a de nouveau eu une perte, et où, parce que l'histoire de l'humanité, c'est comme ça, il y a des réveils, c'est en haut, mais plus tard, le rationalisme, c'est son nom. Le rationalisme, ça vient de ratio en latin, qui veut dire raison. C'est quand on raisonne tout, on ne croit plus aux miracles et rien. Et les libres penseurs, etc., Voltaire, et puis Jean-Jacques Rousseau, ces gens-là, ont fait beaucoup, beaucoup de tort. Et après, le diable a réussi de faire perdre l'autorité à la parole de Dieu. La parole de Dieu a été mise en doute par des intellectuels. Et puis, finalement, ça a été un ravage dans les églises protestantes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas catholiques, qui sont protestants, mais ils sont plus croyants, et oui, ils croient plus rien. Pour eux, la Bible est vraie, mais plus ou moins vraie, puis faut la décortiquer. Il y en a la moitié qui est pas vraie, ils croient plus au miracle, ils croient plus à la naissance miraculeuse du Seigneur Jésus, ils croient plus à la résurrection corporelle de Christ. Être pratiquement plus rien du tout. Et c'est ce qui est arrivé. Mais au siècle dernier, au 19e siècle, il y a eu de nouveau un grand réveil. En Angleterre et dans certains pays, comme en Suisse, dans certains pays, il y a eu un grand réveil. Beaucoup de gens ont été convertis. Et ils sont retournés à la simplicité du Nouveau Testament et ils ont retrouvé la vérité du retour du Seigneur Jésus. Ça fait à peu près 150 ans qu'on a retrouvé la vérité du Seigneur Jésus, le retour du Seigneur Jésus. À peu près 150 ans. Moi, je me rappelle quand ma grand-maman, une de mes grand-mères du moins, ont retrouvé cette vérité-là. Ils chantaient toute la nuit. Tellement ils étaient heureux. Ils attendaient. Ils étaient sûrs qu'ils allaient revenir tout de suite. Tellement ils étaient convaincus. Ils étaient déjà chrétiens. Mais ils ont, quand les assemblées chrétiennes ont commencé, particulièrement en Suisse, bien, ils ont retrouvé cette vérité-là. Ils étaient transportés de joie. Il y avait des assemblées dans presque tous les villages où ils attendaient le Seigneur le soir. Toute la nuit, même. Chantaient des cantiques. Je veux pas dire tous les soirs, parce qu'il fallait bien qu'ils dorment, mais des fois, il y avait des réunions, c'est jamais assez long. Tellement ils étaient intéressés, puis ils étaient bouillants, fervents, et ils ont retrouvé beaucoup d'autres vérités bibliques dans ce temps-là. La réunion dans la simplicité autour de la personne du Seigneur Jésus, la fraction du pain, etc., et bien d'autres choses, la séparation du chrétien avec le monde, la politique de ce monde, etc., beaucoup de choses. Alors, au chant du coq, et au matin, le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais on est maintenant dans cette dernière période, dans la période la plus sombre de la nuit. Parce que, je ne sais pas si j'avais déjà fait la veille, moi, j'ai été soldat militaire. Et je me rappelle quand on faisait la garde, le moment le plus difficile, c'est avant le lever du jour. Quand la nuit est la plus sombre et la plus froide, quand se lève l'étoile du matin. C'est le plus dur de toute la nuit de rester sentinelle de même, tranquille, en plein milieu, juste avant le matin. C'est pire que le soir, c'est pire qu'à minuit. Mais on est dans ce temps-là, au point de vue historique et moral, juste avant le lever de l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est le Seigneur Jésus lui-même, il le dit dans l'Apocalypse, « Je suis l'étoile du matin qui se lève avant, qui brille plutôt avant le lever du jour. » L'étoile du matin, ça termine le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament termine avec le lever du soleil de justice. Ça veut dire l'établissement du règne avant le lever du jour, avant que le Seigneur établisse son règne sur cette terre. Nous attendons l'étoile du matin, le Seigneur Jésus lui-même, qui est à la veille de revenir. Ça c'est sûr, c'est évident, la Bible est claire, ça s'accorde avec tous les signes, au point de vue moral, au point de vue national, au point de vue chronologique, ça s'accorde avec ce qu'on peut constater autour de nous. On devrait en être convaincu, ça devrait changer nos vies. Le Nouveau Testament de dire, celui qui a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Alors on doit mettre certaines choses en ordre, on doit être prêt pour ce retour. Si on n'est pas sauvé, ben c'est le temps qu'on soit sauvé, parce que quand le Seigneur va venir, la Bible nous dit que ceux qui n'auront pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, surtout les enfants des chrétiens, ils vont avoir une énergie d'erreur, une puissance d'égarement, puis ils vont croire au mensonge. C'est pas terrible, ça. Ceux qui ont entendu l'Évangile, qui n'ont pas voulu, bien, ils vont croire au mensonge de l'Antichrist. Et puis ils vont être séduits, et puis perdus pour toujours. Alors, ça fait réfléchir, ça. Ça nous donne aussi du zèle, ça nous encourage, nous qui sommes sauvés, à attendre le Seigneur Jésus. Notre espérance, c'est pas dans un changement de gouvernement ou dans toutes sortes de choses que le monde attend. Nous, on sait bien, il n'y a pas de promesse pour un monde meilleur. La Bible est claire, ça ira de mal en pis. C'est comme un char qui est en train de s'embourber dans un endroit de sable. Il y a du sable jusqu'aux essieux, dans la neige en hiver. Jusqu'aux essieux, puis on ne peut plus en avant. Puis plus ça avance, plus ça enfonce. Plus c'est pire. Et là, ça ne veut pas dire qu'on veut que ça aille mal, on aimerait bien que ça aille mieux, mais la Bible est claire. Seigneur Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés du monde. Alors notre responsabilité, c'est d'être des lumières dans un monde de ténèbres, d'avertir. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Il m'a fait plaisir d'être avec vous. Et j'espère que ça aura rafraîchi vos mémoires de ces vérités bibliques. On va publier bientôt un petit livre par William MacDonald, qui parle un peu de ces choses-là d'une manière un peu différente, mais c'est très intéressant. J'espère qu'on va l'avoir d'ici peut-être un ou deux mois. On est en train de terminer. Et ce sera un petit livre qui pourra servir aussi pour l'évangélisation, de même que pour l'édification des chrétiens. Le titre, ça va être « Armageddon, bientôt la dernière guerre ». Parce que c'est vraiment la dernière guerre, Armageddon. Alors que le Seigneur vous bénisse et nous aide aussi tous à vivre pour lui en attendant que ce vienne. Prions. Notre Dieu, nous voulons nous approcher de toi encore une fois, te remerciant de ce que tu nous as permis de nous réunir ce soir quelques-uns pour ouvrir ta parole, pour nous entretenir sur ces événements qui sont à la veille de se produire. Te remercions de ce que ta parole est la vérité, de ce que nous attendons un sauveur qui va être vainqueur, victorieux, qui va mettre en ordre ce que les hommes ne peuvent pas mettre en ordre, qui va régler ce qui doit être réglé dans ce monde, et nous te demandons de nous aider à l'atteindre à être fidèles en attendant, à faire valoir nos talents, à nous occuper de nos affaires pour le glorifier pendant le peu de temps qui nous reste à vivre. Et s'il y en a parmi nous qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, nous te demandons que ce qui a été dit puisse les éclairer pour qu'ils viennent au Sauveur et soient sauvés pendant qu'il est temps. Au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.